France Inter.
Aujourd'hui, inégalité et mobilité, racontée par
Camille Schmoll, géographe à l'EHESS, membre du laboratoire Géographicité.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
On parle beaucoup de mobilité, comme si se déplacer allait de soi. Mais à y regarder de plus près, toutes les mobilités ne se valent pas. Il y a celles que l'on célèbre, le voyage, le tourisme, l'expatriation, les déplacements professionnels. Elles sont synonymes d'ouverture, de curiosité ou d'enrichissement personnel. Et puis il y a les autres mobilités, celles que l'on regarde avec inquiétude, parfois avec rejet, les exils, les migrations contraintes, les errances forcées. Chaque année, des millions de touristes traversent la Méditerranée sans entrave. Billets en main, passeport en poche, dans le même espace maritime, d'autres traversées sont qualifiées d'illégales, dangereuses ou indésirables. Les mêmes routes, les mêmes eaux, mais des vies qui ne sont pas accueillies de la même manière, ni protégées avec la même intensité. Dans tous les cas, il s'agit pourtant de corps qui se déplacent, des corps qui traversent des espaces, qui cherchent une place ou un refuge, une possibilité de vivre en tous les cas. Mais selon qui l'on est, selon d'où l'on vient, selon la manière dont on se déplace, ces corps ne sont pas perçus de la même façon. Certains sont attendus, d'autres tolérés, d'autres encore indésirables. Cette question de la place est centrale. Avoir une place, c'est plus qu'occuper un espace physique, c'est être reconnu comme légitime, comme appartenant au paysage social. À l'inverse, être sans place, c'est être mobile malgré soi, déplacé en permanence, assigné à l'attente et à l'invisibilité. Et cette géographie morale des mobilités ne concerne pas seulement les migrations, elle traverse aussi le tourisme de masse, les politiques urbaines, les enjeux écologiques, les frontières qui se durcissent ou les ressources qui se raréfient. Elle dessine un monde où les mobilités les plus polluantes sont souvent les plus valorisées, tandis que celles qui relèvent de la survie sont les plus entravées. Alors comment comprendre cette hiérarchie des déplacements, penser ensemble mobilité, justice sociale, écologie et hospitalité? C'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Ça fait 12 ans que je suis en France, donc ça fait 12 ans que je suis un expatrié. Et je dis que je suis un expatrié et pas un immigré, parce que je suis blanc. Voilà, c'est la seule différence, apparemment. Donc si vous voulez savoir si vous êtes un expatrié ou un immigré, c'est très simple. Vous dites dans une soirée d'où vous venez, et si la personne il te dit « Pourquoi t'es là ?» T'es un expatrié. S'il dit rien, t'es un immigré.
L'humoriste américain Sébastien Marx, c'était au Montreux Comedy Festival en 2020. Bonjour Camille Schmoll.
Bonjour Mathieu Vidard.
Vous avez publié en septembre aux éditions du CNRS cet ouvrage « Chacun sa place », sous-titré « Une géographie morale des mobilités ». Comment vous réagissez à ce petit extrait de sketch là?
Ben, c'est,
qui dit
c'est
beaucoup en 20 secondes. Hein.
Oui, c'est excellent, c'est exactement ça. Hein. Travailler l'articulation des différentes formes, de ce qu'on appelle parfois les différents régimes de mobilité, et les valeurs morales, les représentations qu'il peut y avoir derrière ces mobilités, c'est exactement ça. Et derrière ces représentations, il y a aussi des rapports de force, il y a aussi des rapports sociaux. Et là, c'est la question explicitement raciale qui est soulevée par l'humoriste, et qui est effectivement, qui traverse aussi ces questions de jugement et de représentation qui entourent la question du traitement des mobilités.
Alors, vos travaux portent sur les migrations européennes et méditerranéennes, également sur la question du genre. Qu'est-ce que d'abord la géographie morale ?
Alors, la géographie morale, c'est une approche de la géographie sociale, plus généralement, qui cherche à comprendre comment nos normes, nos valeurs sociales influencent les représentations qu'on peut avoir sur la place des uns et des autres dans l'espace, à l'échelle des lieux, des villes, des territoires. Et donc, c'est pas une géographie moraliste. Il s'agit pas de dire quelle devrait être la place des uns et des autres, mais c'est plutôt d'essayer de comprendre, derrière le regard qu'on porte sur ces mobilités, par exemple, comment on est amené à légitimer ou pas certaines formes de déplacement.
Donc ça révèle plein de choses de nos sociétés, la question des mobilités. Hein ?
Absolument, ça révèle la place en fait, que l'on accorde aux uns et aux autres, que l'on veut bien donner aux uns et aux autres. Et comme vous l'avez très bien souligné, ça révèle aussi des enjeux de visibilité. C'est-à-dire qu'il y a des mobilités qui sont plus ou moins visibles, et surtout il y a des mobilités qu'on invisibilise pour les cacher, parce qu'on ne les apprécie pas, parce qu'on les juge indésirables, effectivement.
Ouais. Plein d'exemples dans votre ouvrage, on va essayer d'en aborder évidemment quelques-uns ensemble. Alors c'est vrai que dans le débat public, la migration est souvent traitée comme un problème autonome, hein, presque exceptionnel. Vous, au contraire, vous choisissez vraiment de l'inscrire dans un cadre beaucoup plus large, donc celui des mobilités contemporaines. Pourquoi précisément vous déplacez un petit peu le regard et pourquoi ça vous semble nécessaire aujourd'hui ?
Alors, je m'inscris dans un courant qui est celui des études sur les mobilités, qui considère qu'il y a une forme de continuum, en fait, dans la façon dont on traite des questions de mobilité. Et donc, la migration est une déclinaison, une forme de la mobilité, une forme de la mobilité internationale, mais il y en a d'autres, comme le tourisme que vous avez mentionné. Et avoir cette approche en termes de continuum, ça permet de comprendre qu'en réalité, à travers notre regard sur les mobilités, ce qu'on questionne, c'est la question de l'altérité. Donc la question de la place de l'autre dans nos sociétés. Et travailler la figure du migrant ou de la migrante en miroir avec celle d'autres formes de déplacement, ça permet de comprendre aussi ce qui va nous déranger à un moment donné dans cette migration par rapport à d'autres formes de déplacement.
Ça s'inscrit pas du tout dans les débats politiques ultra saturés du moment quand même, hein ?
Pas du tout, mais c'est aussi une réaction de la part de la recherche par rapport à ces débats politiques, hein, qui sont souvent très, en fait, très déplacés, très décalés par rapport à l'état de la recherche sur ces questions-là.
Ouais. Alors dans ce livre, vous faites un rapprochement qui peut quand même surprendre, puisque vous mettez en regard, en parallèle, l'immigration et le tourisme. Alors en quoi justement, ce qui peut sembler provocateur, permet au contraire de bien comprendre ce rapport collectif au déplacement ?
Alors oui, ça peut sembler absolument choquant, voire obscène. En réalité, y a un double objectif. D'un côté, c'est de montrer comment, finalement, la régulation des migrations, le regard qu'on porte sur les migrations, procède des mêmes jeux d'acteurs que la régulation du tourisme, le regard qu'on porte sur le tourisme. Et qu'en même temps, on est face à des représentations, comme vous l'avez dit, opposées. C'est-à-dire que d'un côté, par exemple, si on regarde au niveau international, on a une instance internationale qui est ONU Tourisme et qui a pour objectif de privilégier, de développer le tourisme.
Donc ça, on le valorise, hein,
voilà,
énormément.
On le valorise. Et de l'autre côté, on a l'OIM, qui dépend également de l'ONU et qui est en charge des migrations, et qui là a une position beaucoup plus ambivalente par rapport aux migrations, hein, qui cherche à les réguler, à les canaliser, mais aussi dans une certaine mesure à les empêcher ou à les prévenir.
En tout cas, on les présente comme une menace.
Voilà.
Assez clairement. Hein.
Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect de ce rapprochement qui me semble heuristique. Et en même temps, l'idée, c'était aussi de rapprocher deux figures qui sont rarement, presque jamais rapprochées, qui sont celles du migrant et du touriste, en disant derrière la mobilité. Il se passe quelque chose qu'on peut peut-être rapprocher de l'ordre de la découverte, du désir, d'une envie de changement. Et toutes les formes de mobilité, enfin une partie en tout cas des migrations et du tourisme dans le monde, une partie importante, résulte aussi de cela. D'avoir une vie meilleure, de changer sa vie. Alors, quelles que soient après les conditions, qui évidemment ne sont pas les mêmes, qu'on quitte. Mais il y a peut-être quelque chose de l'ordre du rapprochement, du désir, de l'envie de voyager qui peut être mis en relation.
En tout cas, on voit bien qu'il y a une asymétrie, hein, entre les deux. Et donc, une hiérarchie morale, pour revenir justement à la discipline qui vous intéresse, quand on prend les deux sujets et qu'on les met en miroir. Hein.
Absolument, il y a une hiérarchie morale entre la figure du touriste et la figure du migrant. Mais il y a aussi des hiérarchies morales à l'intérieur de la façon dont on traite des migrants et de la façon dont on traite des touristes.
Alors justement, vous prenez beaucoup le point de vue du voyageur. Qu'est-ce que ça permet de montrer, en fait, le cas du touriste par rapport justement à celui du migrant, exactement ?
Alors, le cas du touriste, évidemment, c'est fascinant parce que le touriste, c'est toujours l'autre. Et ça a été très bien montré dans les enquêtes anthropologiques, je pense aux travaux de Jean-Didier Urbain, par exemple, sur la question. C'est un mode de distinction, le tourisme.
C'est-à-dire donc, que soi-même, on n'a pas envie d'être considéré comme touriste.
Voilà,
hein.
Donc d'un côté, on est tous et toutes, hein, amenés à être des touristes à un moment donné, mais on se définira plutôt comme voyageurs, voyageuses. Et ce qui est intéressant, là aussi, en parlant du rapprochement, c'est que dans la migration, on a la même chose. Les migrants se définissent comme des aventuriers, comme des voyageurs, et le migrant, c'est l'autre. Donc on retrouve ces modes de distinction, qui sont des formes d'individualisation par le déplacement, qui sont tout à fait socialement logiques, hein, et donc aussi des formes de dépréciation de la mobilité des autres. Autres touristes qui, eux, voyagent en masse, qui, eux, ne se distinguent pas, qui, eux, ne savent pas choisir les bonnes destinations, qui vont dans les lieux qui sont trop courus, où tout le monde se rend, etc.
On évoquera la question du surtourisme avec vous au cours de cette émission. Justement, Camille Schmoll, pour parler encore d'immigration, on continue toujours à utiliser ce terme de pression migratoire aujourd'hui, alors que vous montrez bien, il faut le rappeler à chaque fois, on essaie de le faire d'ailleurs dans cette émission régulièrement, que les chiffres racontent une toute autre histoire à ce sujet.
Oui. Alors, je discute la question de l'hypermobilité, en fait, de cette idée qu'il y aurait une augmentation, une intensification très forte des mobilités dans le monde. Et à l'intérieur de cette discussion, je situe la question des migrations. Effectivement, il n'y a pas une augmentation très importante des migrations. Il y a une augmentation globale, mais rapportée à la population mondiale, le phénomène migratoire reste un phénomène exceptionnel.
On peut donner quelques chiffres.
On est autour de 3% de la population mondiale qui serait en migration. Donc, on est autour de 300 millions de personnes. Donc, c'est très par rapport, à, par exemple, au tourisme, qui a connu une augmentation exponentielle, puisqu'on est parti de à peu près 200 millions de touristes, de voyages touristiques dans le monde dans les années 80 à aujourd'hui 1,5 milliard. On peut dire que c'est sans comparaison. D'ailleurs, je ne devrais même pas comparer ces chiffres parce qu'ils ne sont pas tellement comparables.
Alors, quand on regarde le chiffre justement des migrations, c'est intéressant de rentrer aussi dans les détails parce qu'on a ce chiffre global de 3% donc, à l'échelle mondiale, sauf que toutes les personnes qui migrent ne viennent pas, par exemple, en Europe, loin de là.
Absolument pas. La grande majorité des migrations sont des migrations de proximité, des migrations régionales, des migrations qu'on dit parfois sud-sud, donc à l'intérieur de grands ensembles régionaux, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie, bien entendu. Et en réalité, c'est une minorité des migrations qui se dirigent vers l'Europe. Et la plupart des personnes qui partent ne souhaitent pas venir ni en Europe, ni en Amérique du Nord. Donc ça, c'est vraiment une vision très eurocentrée qu'on a, en fait, de ces questions-là.
Camille Schpoll, quand on compare les chiffres, donc entre ceux des migrations, 300 millions, vous le disiez, à l'échelle de la planète, plus d'1,5 milliard pour le tourisme, on pourrait parler de pression touristique, alors, aussi, non ?
Alors, oui et non, effectivement, c'est le grand, pour moi, je disais que ces chiffres sont difficilement comparables parce qu'il y a des chiffres de stock et de flux, donc c'est pas exactement comparable. Mais en tout cas, le tourisme, c'est le grand phénomène de mobilité du 21e siècle. C'est évident qu'il y a une explosion des mobilités internationales sous l'effet de l'essor du tourisme, qui sont aussi en grande partie des mobilités aériennes.
Et donc, vu l'ampleur, ça pourrait susciter quelques paniques, quand même.
Quelques inquiétudes, effectivement. Oui. Non, mais qu'il y ait des enjeux, c'est évident, il y a des enjeux de régulation du tourisme, il y a notamment des enjeux de régulation des mobilités aériennes qui sont évidemment, qui posent des questions environnementales extrêmement importantes. Mais ceci dit, ce que j'essaye de montrer, c'est que derrière cette anxiété autour du développement du tourisme, qui est réel et qui a de saines raisons d'exister, il peut y avoir aussi d'autres enjeux qu'on n'a peut-être pas tout à fait saisis, qui sont des enjeux effectivement de distinction par rapport à une forme de démocratisation, de massification du tourisme.
On va écouter l'influenceuse instagrammeuse Liane comme Tarzan, c'est son nom, c'était cette année.
Et là, je me rends compte qu'on n'a jamais de visa à faire quand on voyage. C'est tellement facile pour nous, on a tellement peu de barrières. La France a un passeport hyper fort. La force du passeport, on en a entendu parler à Miss Univers cette année. Faut juste réaliser que franchir les frontières, c'est pas anodin, c'est vraiment un privilège qui se respecte. Alors autant pas prendre l'avion n'importe comment et faire n'importe quoi quand on voyage. D'ailleurs, renseigne-toi avant de partir, je le faisais pas. Et depuis la Côte d'Ivoire, je le fais systématiquement. Chaque pays a une histoire, des blessures, des tensions, des sujets tabous.
Voilà, cette instagrammeuse Liane comme Tarzan, plutôt de bonnes recommandations d'ailleurs dans l'extrait de cette vidéo.
Absolument, c'est très intéressant. J'ai travaillé sur les blogs de voyageuses et la façon dont ces voyageuses peuvent discuter justement quelque part de leur conscience d'être des personnes extrêmement privilégiées, d'avoir la possibilité de se déplacer, ce qui est effectivement un privilège rare, il faut le rappeler. On fait partie l'Union européenne permet de voyager à peu près partout et souvent sans visa, ce qui est absolument quelque chose de très rare. Le fait d'avoir une nationalité européenne permet ça. Et donc oui, tout à fait, il y a une conscience aussi parmi en tout cas certains groupes de touristes, de leurs privilèges et du fait qu'il faut non seulement limiter et certainement réguler les formes de circulation, mais aussi se comporter de façon acceptable vis-à-vis des personnes qu'on visite.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Camille Schmoll, vous êtes notre invitée avec ce livre « Chacun sa place, une géographie morale des mobilités ». C'est aux éditions du CNRS. Alors justement, « Chacun sa place », vous écrivez que les conflits qui sont liés aux mobilités, ils ne sont pas vraiment liés à des conflits techniques ou des conflits pratiques, mais plutôt justement à des conflits moraux, sur l'idée de est-ce que justement la personne qu'on a en face de soi a la bonne place. Comment ça signifie concrètement tout ça en fait ?
Alors, je pars d'exemples très concrets de conflits ou de controverses ou d'affrontements ou de tensions qui sont liés à des phénomènes aussi divers que la surfréquentation touristique, la mobilité automobile, la présence de demandeurs d'asile dans un village. Et j'essaie de montrer comment, à chaque fois, autour des oppositions qui se cristallisent dans ces conflits, eh bien, il y a des jugements sur voilà, la place à donner aux uns et aux autres.
Qui a le droit d'être là, quoi, en fait.
Qui a le droit d'être là, exactement.
Ouais.
À qui appartiennent les lieux, en fait, à qui appartiennent les lieux. Et on voit que derrière les registres de justification qui sont mobilisés par les différents participants à ces conflits, eh bien, on a des rapports aux lieux différents, des rapports à ce que c'est aussi que d'être un usager, ce que c'est que d'être un habitant, et donc des formes de légitimité qui se déclinent.
Mais vous montrez qu'on a une vision assez figée des lieux, finalement.
Oui,
on n'aime pas trop que ça bouge, on aime le lieu stable et immuable, en fait. C'est
toujours
ça.
On aime les lieux stables, on aime les lieux immuables, comme dirait Georges Perec, mais en réalité, ces lieux n'existent pas, comme dirait aussi Georges Perec. Donc, en fait, on a une vision de l'authenticité des lieux qui est complètement déplacée par rapport à la réalité des lieux qui sont sans cesse, en fait, transformés par les mobilités, par le mouvement. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé qui m'a interpellée, c'est aussi que les personnes qui défendent le plus l'authenticité des lieux sont souvent des néo-résidents, des gens qui se sont installés récemment et qui justement, parce qu'ils ont choisi de s'installer là, souhaitent que rien ne bouge.
C'est ça, ils ont construit un imaginaire en fait, avec beaucoup d'attentes.
Absolument.
Et donc il ne faut pas décevoir ces attentes et ces espoirs.
Absolument. Ouais,
l'essentialisme, c'est un mot que vous employez, c'est très important. Comment ça s'illustre? Donnez-nous quelques exemples justement là-dessus.
Alors l'essentialisme, c'est l'idée qu'en fait, il y aurait une identité des lieux immuables, donc un genus loci, vraiment un esprit des lieux, et qu'il ne devrait pas changer. Donc Paris a toujours été Paris et restera Paris. En réalité, si on regarde le fonctionnement de la capitale aujourd'hui, eh bien, c'est une ville qui est travaillée par des flux de travailleurs, de consommateurs, de touristes, d'étudiants, de migrants qui vont travailler dans l'industrie du tourisme, par exemple.
Donc il y a du brassage et de la diversité en permanence.
Voilà, et de la circulation, en fait, parce que la plupart des travailleurs parisiens ne vivent pas à Paris, par exemple. Donc ce sont des pendulaires, des gens qui sont dans la mobilité pendulaire. On a aussi des phénomènes de bi-résidentialité, des gens qui vivent à Paris et ailleurs aussi. Donc cette réalité d'une ville immuable, vraiment ancrée dans une essence qui ne bougerait pas, elle est complètement fantasmée.
Ouais. Vous citez Thierry Ardisson, par exemple.
Oui, parce que c'était une controverse, bon c'est anecdotique, mais c'était une controverse qui m'avait beaucoup marquée autour de la question des kebabs, de la place des kebabs rue de Rivoli.
Il
avait dit, bon, oui, voilà,
là
où il habitait, il avait dit, bon, bah, les kebabs, c'est pour Barbès, c'est pas pour la rue de Rivoli. Et c'est exactement ça, c'est le fait d'assigner une identité au lieu. Et donc, la rue de Rivoli, c'est une rue qui doit rester chic. Et donc, les commerces d'immigrés, c'est pour les quartiers d'immigrés, quoi.
Ouais, sauf qu'on y voit beaucoup de boutiques de tourisme aussi, c'est très
bigarré. En fait, c'est un des quartiers les plus divers de Paris. Si on considère que la diversité ne se limite pas à la question de la résidentialité, en fait. C'est ça, la question. C'est qu'en réalité, elle est traversée par des commerçants qui vendent des tours Eiffel et des cadenas aux touristes, par des touristes, évidemment, par des gens qui viennent travailler tous les jours.
Alors justement, l'épisode des cadenas, qu'est-ce que ça raconte, ça? Parce que dans tous les quartiers de Paris, tous les ponts de Paris quasiment ont connu ça.
Alors oui, les cadenas parisiens, c'est très intéressant parce que ça montre comment les questions de légitimité mettent en jeu aussi des valeurs paysagères, esthétiques. Et donc, pour les géographes, c'est important. La question de la visibilité. En réalité, ce qui se passe, ce que je raconte, c'est tout un conflit qui se cristallise autour du fait que les touristes, comme dans plein d'autres villes d'ailleurs touristiques, vont commencer à poser des cadenas sur les ponts de Paris, sur les ponts du cœur de Paris. Et donc, évidemment, il y a une réaction qui considère qu'en fait, du point de vue esthétique, c'est absolument inacceptable. Alors après, il va y avoir aussi des enjeux sécuritaires autour de cette question des cadenas.
À cause de l'effondrement possible.
Et donc, de fait, la mairie de Paris va mettre en place des opérations pour ou essayer de déplacer ces usages, ou en tout cas transformer les ponts de Paris de façon à ce qu'on ne puisse plus y apposer de cadenas. Mais ce qui me semblait vraiment intéressant, c'était l'enjeu esthétique, parce que l'enjeu esthétique, c'est en fait le touriste ne doit pas marquer l'espace de son empreinte, en fait. Hein. Il n'a pas de légitimité à poser son empreinte.
Il doit passer discrètement tel un fantôme.
Et en même temps, je me rends compte que c'est un peu provocateur de dire ça, parce qu'en fait, ça nous gêne tous et toutes un peu, ces cadenas, quand même. On a du du mal à s'y habituer, quoi. Et en même temps, si on voulait les considérer comme une façon pour les touristes aussi de participer aux transformations urbaines, peut-être que ça nous permettrait de décaler un tout petit peu notre façon de regarder les choses.
Ouais. Il y a un autre exemple dont vous parlez, dans votre analyse, c'est le résidentialisme. Pourquoi est-ce que c'est très structurant, finalement, dans cette affaire de mobilité, là ?
Oui, c'est très important. Alors, il y a deux enjeux, à mon avis. D'abord, l'idée que, en fait, les personnes qui seraient le plus légitimes à se prononcer sur ce que doivent être les usages légitimes des lieux, ce sont les résidents. Bon, ben c'est quelque chose qu'on peut questionner, qu'on questionne en sciences sociales depuis un certain temps désormais, parce que, comme je vous le disais, ben les villes, par exemple Paris, après tout, on peut se demander si seuls les habitants, ceux qui résident à Paris, et parfois même seulement les propriétaires, à vrai dire, peuvent se prononcer sur les transformations de la ville. Ça pose des enjeux de citoyenneté, c'est très compliqué, mais on peut vraiment le questionner et se demander si, après tout, les usagers ne pourraient pas avoir leur mot à dire. Ça soulève aussi la question de la birésidentialité, qui, il est vrai, est en partie quelque chose d'une pratique de privilégié, de pouvoir habiter en plusieurs lieux. Mais après tout, quand on vit quelque part, même si on n'y vit pas toute l'année, est-ce qu'on n'aurait pas aussi une légitimité à se prononcer sur des questions d'aménagement urbain, de politique locale, etc.
Mmh. Oui, et vous évoquez, pour sortir un petit peu de Paris, le cas des gens du voyage, parce que leur situation parle beaucoup de, justement, cette question du résidentialisme.
Absolument, c'est la question de la possibilité, en fait. Alors, là, évidemment, c'est l'exemple des gens du voyage. On connaît toutes les discriminations, les formes aussi de mobilité forcée dans laquelle ils se trouvent parfois, parce qu'ils ne trouvent pas des conditions locales d'accueil suffisantes. Et donc, ça montre bien combien ils sont, en quelque sorte, parce que mobiles, parce qu'en déplacement, et parce que, effectivement, dans des pratiques de multirésidentialité, d'une certaine manière, mis à l'écart de l'accès à un certain nombre d'aménités urbaines, malgré la loi, parfois même en dépit de la loi.
Une commune qui est évoquée, celle de Saint-Brévin-les-Pins, c'est en Loire-Atlantique, et vous en parlez pour évoquer la question de l'accueil des demandeurs d'asile. Et pour en discuter, on va écouter cet extrait de la chaîne Télé-Nantes.
Un samedi soir sous surveillance à Saint-Brévin, où l'accueil prochain d'une cinquantaine de migrants continue de diviser. Les Brévinois favorables à leur accueil ont choisi de ne pas participer à la réunion publique organisée par le collectif des opposants. Une réunion apolitique, mais dans les faits fortement dominée par les mouvements d'extrême droite, comme le Front National. En fin de soirée, le débat portera surtout autour des moyens d'empêcher l'arrivée des migrants. Un habitant tentera bien d'évoquer une autre hypothèse, mais sans succès.
Camille Schmoll, cet exemple donc de Saint-Brévin-les-Pins, qu'est-ce qui s'y joue précisément alors ?
Alors d'abord, c'est un exemple vraiment emblématique parce qu'il a amené à la démission du maire. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler, hein, Yannick Morez, sous l'effet des pressions, et puis il a subi des menaces très sérieuses à son domicile, il a été poussé à démissionner.
Ouais. Et puis manque de soutien, justement,
oui,
de l'État.
Oui, absolument. Et donc c'est vraiment un cas important et emblématique. Ce qui se joue, c'est des enjeux en fait, qui traversent les échelles. Ce ne sont pas seulement des enjeux locaux, en fait. Hein. Ce sont des visions de l'hospitalité qui s'opposent et qui, à un moment donné, vont se concentrer en ce lieu, avec des gens qui viennent d'autres régions, hein, y compris de l'extrême droite européenne, pour aller manifester à Saint-Brévin contre ce qui n'était pas l'arrivée de migrants, à vrai dire, ce qui était simplement le déplacement dans un nouveau quartier d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui existait déjà à Saint-Brévin.
Et quels arguments ont été mobilisés justement contre ce centre d'accueil ?
C'était des arguments essentiellement, alors là aussi, esthétiques, paysagers et sécuritaires. Donc, en fait, le centre devait être ouvert à proximité d'une école, et donc c'était des arguments sécuritaires. On disait que la sécurité des enfants de l'école était menacée. Alors évidemment, tous les parents d'élèves n'étaient pas mobilisés, hein, mais certains parents d'élèves se sont mobilisés.
Donc il devait protéger nos enfants.
Voilà, et puis ensuite, esthétique, paysager, parce qu'on est dans un quartier, celui de la Pierre-Attelée, qui est un quartier effectivement qui bénéficie de certaines aménités paysagères, et donc il y avait ce discours qui consistait à dire que ça allait un peu entacher l'attractivité du quartier, qui est aussi un quartier touristique. Voilà.
Et le principe de précaution était évoqué aussi. Hein.
Oui, c'était l'idée que...
Quelle précaution d'ailleurs ?
Alors, principe de précaution, c'est toujours la question sécuritaire, je pense. C'est l'idée qu'on ne savait pas ce que ces demandeurs d'asile allaient amener avec eux. C'est étonnant d'ailleurs, parce qu'en plus c'est un centre pour familles, donc cette inquiétude aussi vis-à-vis de l'arrivée de familles, d'enfants, qui allaient peut-être fréquenter l'école, enfin c'est...
Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites qu'on pourrait aussi défendre un argument économique, finalement. Parce que quand des touristes arrivent, on sait que ça fait vivre aussi économiquement, par exemple, une cité balnéaire comme Saint-Brévin. De la même manière, des familles accueillies dans ces centres d'accueil pourraient aussi participer à la vie économique de la commune.
Alors, c'est vrai que c'est le pari qui a été fait par d'autres collectivités locales. Hein, qui, alors là, c'est, encore une fois, c'était même pas l'arrivée, c'était le déplacement dans la commune. Donc, c'est pour ça que c'est une histoire absolument qui est assez qui est, en fait qui revêt des enjeux symboliques mais qui localement ne signifiait aucune transformation majeure mais effectivement il y a un impact en termes à la fois d'impact sur des phénomènes qui sont très importants aujourd'hui de décroissance démographique en fait en milieu rural et aussi la question économique du développement local qui pour le coup, pour certaines collectivités locales, l'arrivée de demandeurs d'asile, de centres d'accueil peut constituer effectivement un élément de redynamisation, en fait. Mmh.
Voilà, ouais. Quelques exemples, on va en aborder d'autres dans la dernière partie autour des inégalités liées aux mobilités. C'est le thème de la Terre au carré avec vous, Camille Schmoll.
France Inter. La Terre au carré.
C'est des faits divers qui font systématiquement les gros titres. Il y a un énorme sensationnalisme, c'est parfois un voyeurisme un peu dégueulasse autour de ces meurtres de femmes. Et cette espèce d'idée récurrente qui persiste dans l'espace public que finalement une femme qui fait son jogging dans l'espace public est en danger imminent. Je pense que ce genre d'outils sert à dissuader les femmes à arpenter l'espace public librement. Parce que finalement, oui, ça arrive, mais c'est extrêmement rare. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup infiniment plus rare qu'une femme qui est tuée dans son foyer par son mari. Et il n'y a pas de gros titre pour dire aux femmes qu'elles sont en danger quand elles rentrent chez elles et qu'il faut qu'elles s'assurent que leur mari n'est pas quelqu'un de potentiellement violent.
La voix de Lorraine Bastide dans le podcast de Camille Test. Encore heureux, faut-il apprendre à cultiver la solitude? C'était le thème de ce podcast. Il y a quelques jours à peine, Camille Schmoll, vous êtes l'autrice de ce livre « Chacun sa place, une géographie morale des mobilités ». La question du genre vous intéresse également beaucoup dans le cadre de vos travaux de recherche. Vous analysez l'usage récurrent justement de l'argument sécuritaire concernant les mobilités, avec par exemple l'exemple de ce mythe de la joggeuse.
Oui, enfin le mythe, en tout cas du danger qui est associé à la pratique du jogging par les femmes. Effectivement, comme ça a été dit par Lorraine Bastide, hein, c'est statistiquement minoritaire. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas,
ah oui.
Mais c'est statistiquement minoritaire. Les femmes risquent beaucoup plus des violences de leurs proches, qu'il s'agisse des conjoints, des proches. L'espace domestique n'est pas un espace sûr pour les femmes, là aussi, hein, statistiquement. Mm-hmm. Effectivement, l'idée, c'était de rappeler que derrière cette angoisse, cette anxiété liée à la mobilité, et notamment à la mobilité de loisirs des femmes, eh bien, il y a une forme de continuum, en fait, d'anxiété autour du déplacement des femmes dans l'espace public.
Donc, c'est une façon, quoi, de le restreindre, ce déplacement ?
Oui, absolument. C'est une façon de le normer, de le contrôler, de le restreindre. Hein. Et c'est aussi, c'était une façon de parler de cette injonction, en fait, à la sédentarité qui est faite concrètement, quotidiennement aux femmes et qui revêt différents aspects dont effectivement cette peur de l'agression à l'extérieur, dans les espaces publics par un étranger, hein, ce qui est souvent voilà, le barbare qui se cache dans les bois ou dans les lieux isolés, ne reflète absolument pas la réalité mais une façon effectivement de limiter les déplacements des femmes.
Donc sous couvert de sécurité en réalité c'est d'autres choses qui se jouent. Hein.
Oui absolument, ce sont des normes de genre hein, qui visent à limiter les déplacements des femmes et on agit sur des peurs aussi. Mmh. On agit sur des peurs, donc c'est aussi une géographie de la peur qui se dessine avec des lieux qu'on pourrait fréquenter et d'autres qu'on ne pourrait pas fréquenter, à moins d'être entouré, d'être encadré, d'être avec un homme ou d'être en groupe. Et ça, on le retrouve en fait dans la régulation de nombreuses formes de mobilité féminine. C'était la sociologue Jacqueline Coutras qui travaillait sur les manuels, le savoir-vivre au début du 20e siècle, qui montrait ça très bien également, la façon dont la mobilité des femmes était régulée déjà pour éviter qu'elles ne se déplacent seules dans les espaces publics.
Vous avez beaucoup travaillé sur la Méditerranée. Pourquoi est-ce que cet espace géographique est aussi révélateur pour vous ?
d'une géographie morale des mobilités, parce que, comme vous l'avez très bien dit dans l'accroche de l'émission, c'est à la fois le premier espace, en fait, de la première zone frontière de mortalité au monde, hein, avec depuis une dizaine d'années simplement plus de 30 000 morts en Méditerranée, et de l'autre côté, la première zone touristique au monde. Et donc, on a des régimes très différenciés de régulation de la mobilité dans cet espace qui sont absolument saisissants. Et des représentations aussi de la mobilité qui sont complètement opposées, et aussi une organisation de ces circulations, du coup, qui va essayer de cloisonner, de faire en sorte que ces mobilités ne se croisent pas, ne se voient pas. Donc, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de montrer comment on invisibilise les migrations pour rendre le tourisme possible.
Un mot sur la couverture de votre livre. J'aimerais qu'on en dise un mot, parce que c'est cette photographe qui s'appelle Natacha de Mailleux qui est à l'origine de cette photo, qui est une photo montage en réalité, mais qui dit beaucoup de choses. Vous pouvez nous la décrire pour les
alors,
auditeurs et
auditrices. Alors, ça se situe donc au Pont d'Arc, en Ardèche. Ouais. Et c'est... ce sont des photos superposées. Et donc, on a la sensation, en fait, d'un espace qui est littéralement saturé par des barques. En réalité, la série de photos dans laquelle s'insère cette photo s'appelle Theater of Authenticity. Donc, je pense que c'est un jeu de mots autour de la notion d'authenticité, c'est-à-dire qu'à la fois l'authenticité que recherche le touriste et qu'il ne trouve pas visiblement, puisqu'ils sont très très nombreux à s'amasser en un moment donné, mais en même temps, c'est aussi un clin d'œil sur le fait que sa photo n'est pas du tout authentique, puisqu'effectivement, c'est un montage, c'est une superposition de photos qui ont été prises en différents moments au même endroit. Je dois dire que quand le livre est sorti, le choix de cette couverture a suscité une réaction que je trouve saine et intéressante sur les réseaux sociaux, puisque effectivement, ce lieu n'est jamais autant approprié de manière aussi dense, et au contraire, la majeure partie de l'année, ce lieu est plutôt vide, en fait, de touristes, et donc il faut continuer à le visiter malgré tout.
La question du surtourisme, vous l'évoquez évidemment dans le cadre de cette question des mobilités. On va écouter l'exemple des Pyrénées avec le lac Cœur.
Ces randonneurs sont récompensés. Face à eux, ce lac en forme de cœur. Mais surtout, la photo est prise. Comment vous connaissez cette randonnée ?
Via les réseaux sociaux, notamment sur Instagram.
Ce lac, à 2000 mètres d'altitude, inonde les réseaux sociaux. Autrefois confidentiel, il est devenu l'un des plus prisés des Pyrénées. Autre problème lié à la surfréquentation, les incivilités. Comme ici, des déchets en pleine nature, des tentes de bivouac déchirées, abandonnées par des randonneurs. La mairie a trouvé une solution, limiter le parking à 40 places de stationnement numérotées, avec réservation obligatoire quelques jours avant.
Voilà, ça c'était en août dernier sur TF1, Camille Schmoll. Des exemples de surtourisme, il y en a à foison aujourd'hui. Okay. Hein, on aurait pu évoquer les Calanques de Marseille, ou encore ce qui se joue à Barcelone ou ailleurs dans le monde. Qu'est-ce que ça raconte, ça, l'idée du surtourisme ?
Effectivement, c'est ces images qui circulent sur Instagram, les personnes qui veulent se photographier en selfie, et donc des moments, en fait, parce que ce sont toujours des moments, hein, c'est vraiment rare qu'un lieu soit sans cesse objet, en fait, de ces fréquentations touristique importante. Hein. J'utilise pas le terme de surtourisme à dessein, hein, parce que pour moi, il véhicule aussi des conceptions morales assez problématiques.
Comment vous nommez les choses, alors ?
Une densité importante, okay. Une intensité de fréquentation. Une fréquentation touristique importante. Et en réalité, ça soulève des questions qui sont très sérieuses, des questions de régulation, de l'accès, et puis aussi de justice. Oui, d'écologie, bien sûr, parce que ces pratiques ont un impact écologique majeur.
Et de justice sociale
aussi. Et de justice environnementale et sociale, c'est-à-dire comment on arrive à préserver ces lieux tout en permettant, en fait, au tourisme, aux touristes d'y accéder tout de même, ou d'accéder du moins tant que c'est possible.
Et qu'il ne soit pas réservé à une élite, encore
exactement,
une fois.
Exactement. Et là, ça soulève des questions qui sont passionnantes, qui sont soulevées par exemple par des économistes sur est-ce qu'il faut mettre en place des tirages au sort, par exemple, ce qui permettrait de réguler l'accès à ces lieux.
Sans devoir payer.
Que payer, c'est aussi privilégier une population plus favorisée par rapport à une autre.
Camille Schmoll, on va passer aux questions parce qu'elles sont nombreuses pour vous. Un premier message de Léa qui nous demande: comment se fait-il que le débat public soit toujours en retard par rapport à l'état de la recherche, notamment sur ce sujet de la migration ?
Merci beaucoup pour cette question. Ben oui, c'est une vraie question. Il est non seulement en retard, mais
Il est brouillé.
Moi, je fais partie des chercheurs qui considèrent qu'il y a une responsabilité très forte des décideurs politiques sur cette question. Parce que les décideurs politiques, pour des raisons parfois bêtement...
Électoralistes,
hein. Brouillent les messages, en fait. Et en connaissance, ils connaissent très bien l'état de la recherche sur ces questions-là. Donc, c'est vraiment un dessein de manipuler l'opinion. Je pense que les personnes qui souhaitent s'informer sur les questions migratoires connaissent en fait ce décalage-là et donc sont de plus en plus informées, de plus en plus conscientes de ce décalage.
D'où l'importance d'entendre aussi vos voix dans l'espace public et en dehors des laboratoires de recherche. Hein.
Absolument. Merci.
Gilles nous dit, si tous les pays du monde ressemblaient à la Corée du Nord en matière de mobilité, quelles seraient les conséquences pour l'humanité? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question.
C'est complètement vertigineux, effectivement. C'est une très bonne question. C'est exactement le contre-exemple et c'est effrayant. Donc, moi, je suis d'accord avec ce commentaire. L'opposé de la mobilité, c'est vraiment le localisme absolu, c'est l'immobilité, c'est l'impossibilité du contact, de la rencontre, de l'échange avec l'autre. Et donc, c'est effrayant.
Victoria demande si on peut observer une augmentation de la mobilité choisie des femmes ces dernières années, ou bien est-ce plus ancien? Et est-il vrai, demande-t-elle, que dans les périodes de guerre, ce sont les armes et les femmes qui circulaient le plus?
Alors, les femmes ont toujours bougé, elles ont toujours circulé, que ce soit pour voyager, pour migrer. Simplement, il y a des formes très puissantes d'invisibilisation de la mobilité des femmes, y compris d'auto-invisibilisation des femmes par elles-mêmes de leur mobilité pour se protéger. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il faut continuer à éclairer la mobilité des femmes, car on a encore beaucoup de choses à faire pour la documenter.
Valérie demande, est-ce qu'on ne pourrait pas apprécier le merveilleux à deux pas de chez nous, au lieu de faire des milliers de kilomètres pour se vanter d'avoir fait tel ou tel pays? Alors on revient sur le terrain de l'écologie.
Tout à fait, non mais tout à fait, ça semble tout à fait sensé. Après voilà, moi je n'ai pas souhaité adopter cette démarche qui consiste à conseiller les personnes sur ce qu'elles devraient faire, c'est plutôt essayer de décrypter ce qu'il y a derrière leur mouvement ou leur mobilité. Mais du coup, ce témoignage m'intéresse aussi en termes de point de vue.
Véronique nous dit ceci, je suis bénévole pour l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, dans l'accompagnement des réfugiés. Pourriez-vous préciser ce rôle, Camille Schmoll, demande-t-elle?
Oui, alors, il est vrai que nous, les chercheurs, on est parfois assez critiques vis-à-vis des activités de l'OIM, parce qu'on considère qu'effectivement, il y a une dimension normative, parfois, notamment dans les campagnes qui visent à sensibiliser sur les dangers de la migration, qui nous posent problème parce que, finalement, c'est une forme d'encouragement à l'immobilité dans des contextes qui sont quand même extrêmement contraints. Mais il ne s'agit pas ici de critiquer l'ensemble des activités de l'OIM, hein, qui aussi jouent un rôle important dans l'accompagnement, effectivement, des personnes en exil en particulier.
Dernière question de Jean-François, pourquoi le kérosène n'est quasiment pas taxé? Parce que c'est pour le transport des riches, demande-t-il?
Bah oui, je pense que c'est une bonne question.
Et qu'est-ce que vous avez répondu? Vous n'avez pas la réponse.
J'ai pas la réponse.
Mais c'est un vrai sujet pour le coup.
Mais c'est un vrai sujet.
Il y a quand même un blocage sur cette question qui est quasi hallucinant. Quand
Oui. Mais aussi parce que ça pose certainement des questions de régulation internationale. Et malheureusement, c'est pas vraiment dans l'air du temps de se mettre d'accord sur cette question-là.
Merci beaucoup Camille Schmoll d'être venue dans la Terre au carré aujourd'hui. Ça s'appelle donc Chacun sa place, une géographie morale des mobilités. C'est extrêmement intéressant. C'est publié aux éditions du CNRS. Merci d'avoir éclairé la question de cette façon.